Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Vous êtes dans l'édition du 15 mars 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous encore une fois ce soir donc pour discuter avec vous, jaser MLS, jaser soccer et partager donc cette passion commune que je pense on a tous. Envers cette formation-là, envers le sport en général, et ce soir, ben, je voulais qu'on prenne le temps de discuter et de se poser, de regarder un peu quelles sont nos attentes pour la saison 2021 du CF Montréal, puisque cette saison ne sera pas totalement différente de la saison précédente, donc la saison 2020. Où, encore une fois, on devra jongler avec les réalités, on va le dire comme ça, de la pandémie. On devra également jongler avec la réalité de certains joueurs qui quittent pour aller en sélection nationale. Donc, ça sera une année pas facile, une année où on introduit un nouvel entraîneur-chef et... Au travers de ça, il y a deux projets complètement parallèles qui se construisent, qui sont le rebranding de cette formation-là et qui sont le projet sportif donc qui est en construction du côté du CF Montréal. Alors, je vous ai demandé quelles sont vos attentes, parce que dans les podcasts précédents, je vous l'ai dit, je m'en suis pas caché, moi je pense que cette année, on est davantage dans la construction que dans la transition. On a parlé plusieurs fois de transition au cours des dernières années. Et là, je pense que, sincèrement, on est dans la transition. Doc Mayou nous dit « année de transition, aucune attente ». Et on va aller voir certains commentaires que vous avez émis, puis restez là, restez branchés avec nous autres, parce qu'à ce soir, on va essayer de vous apprendre quelque chose. Sincèrement, j'ai écouté, puis Doc va peut-être être content de l'entendre, j'ai écouté en fin de semaine le podcast d'Audrey Magny, Foot et Café avec Nicolas A. Martineau, que j'ai trouvé encore une fois excellent. Je pense que tout ce que touche Audrey fait du sens. Je pense qu'elle produit quand même du contenu de haute envergure et c'est le fun, puis ça fait différent de ce qu'on fait. Et dans la réalité, ben, j'essaie d'amener le podcast à un autre niveau. Vous l'avez sûrement remarqué dans les dernières semaines qu'on essaie de sortir de juste du focus du CF Montréal parce que de toute façon, on fait vite le tour et on se démarque pas de cette façon-là. Puis je pense que Nicolas Martineau l'a bien décrit dans le podcast d'Audrey Magny. Il y a tellement de podcasts qui sont axés sur le CF Montréal qu'on a rapidement tout fait, tout dit, tout vu. Et finalement, on devient un podcast parmi les autres. Donc ce soir, j'aimerais ça que vous écoutiez le podcast et qu'à la fin du podcast, vous dites « Tabarouette, j'ai appris quelque chose dans ce podcast-là ». Et ce soir, on va regarder, on se parle d'attente. Je vais vous décrire les miennes, mais je vais vous le dire comment est-ce que moi je le vois. Et on va entrer plus en détail un petit peu de cette réflexion-là suite à un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui. Donc, Doc Mayou, lui, année transition, aucune attente. Garage Foot, donc Rémi, aucune attente pour moi. Mon club, c'est l'Impact. Et l'Impact, comme le Manic, n'existe plus. Le CFMTL est une autre équipe qui ne m'intéresse pas. Je vais juste suivre la CANPL et la PLSQ. Et sincèrement, je pense que c'est un commentaire qui est revenu à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt à l'admettre ou pas. Je pense que je suis d'accord, mais je suis également en accord, et c'est pour ça que j'ai mis la réponse de Pascal. Je suis autant en accord avec ça, qui dit « Je suis d'accord avec toi, la gestion administrative et marketing du club est à chier ». Et prise en charge par deux imposteurs fortement imbus de leur personne. Mais Olivier Renard, et c'est là que je veux qu'on s'arrête dans le commentaire de Pascal, première partie de son commentaire est libre à lui. Hein. On a tous droit à nos opinions. Mais Olivier Renard et les joueurs n'y sont pour rien. Et c'est ce que je veux qu'on retienne du commentaire de Pascal. Parce que dans le fond, ce que Pascal dit, c'est que, regarde, moi, je suis pas d'accord avec le rebranding. Je suis pas d'accord avec la gestion administrative, la gestion marketing en place. Mais moi, dans ma tête, à moi, c'est deux projets qui sont parallèles. T'as le marketing d'un bord, t'as le projet soccer de l'autre. C'est deux projets qui sont complètement parallèles. Et ni Olivier Renard, ni les joueurs n'y sont pour rien. Et moi, personnellement, puis là, c'est à chacun de le voir comme ils veulent, mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse d'une formation de soccer, c'est le projet sur le terrain. C'est le projet qui est là. Éric nous dit, la MLS au Canada, l'an passé, tous les matchs étaient sur DAZN. Cette année, je sais qu'il y en a quelques-uns sur One Soccer et Éric, entre autres, pas nécessairement tous les matchs de la MLS, mais les matchs principalement des sélections canadiennes seront sur One Soccer. Je pense que, sincèrement, Éric, la MLS va se diriger vers sa propre plateforme à elle au cours des années. Donc, dans les prochaines années, ça m'étonnerait pas qu'on voit un genre de DAZN, un genre de One Soccer, de Bein Sports arriver propre à la MLS. Mais par contre, on s'entend que les droits de diffusion sont énormes. Il y a beaucoup de succès et d'argent relié à tout ça. Donc, je suis pas sûr qu'on va être prêt à faire une croix là-dessus. Donc, est-ce que la MLS a un lift, un levier assez fort, assez puissant pour aller chercher le package deal d'abonnement ou elle va faire confiance à un DAZN, à un One Soccer, à un Bein Sports? J'ai hâte de voir exactement vers où on va s'en aller là-dessus. Dans les attentes, Et c'est là-dessus que je vais articuler le podcast de ce soir. Vincent nous dit, j'ai pas trop d'attentes au niveau du classement. Puis c'est bien correct parce que je le disais, on est dans une année de transition encore une fois. Éric nous dit One Soccer, Éric va présenter donc quelques rencontres de équipe Canada U23, équipe Canada senior également. Donc, ce sera à suivre. Mais les matchs MLS, j'ai pas l'info au moment où on se parle s'ils seront sur DAZN. Fait qu'il va falloir que je gratte l'information et que je te revienne. S'il y en a d'autres qui sont à l'écoute présentement et qui ont cette information-là, venez nous rejoindre, que ce soit sur Facebook, Twitter, ou encore notre chaîne YouTube, gênez-vous pas de venir mettre l'information que je la partage avec Éric. Donc, Vincent nous dit, j'ai pas trop d'attente au niveau du classement. L'équipe, elle est jeune. J'aimerais bien voir deux ou trois jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour certains d'entre eux. Faut comprendre une chose, et j'adore le commentaire à Vincent, et c'est là-dessus, comme je vous dis, que j'ai articulé le podcast de ce soir. Je vois un peu la même chose. Wilfried Nancy l'a déclaré d'entrée de jeu. Olivier Renard l'a déclaré également. L'objectif, c'est d'entrer en série, et après, tout peut arriver. J'en ai parlé avec Arius dans les derniers podcasts. Le ballon, il est rond pour tout le monde. Donc, un coup que tu t'es mis les pieds en série, tu peux arriver à faire quelque chose d'intéressant, mais là-dessus, c'est dur de statuer parce qu'il y a la réalité de la pandémie, il y a la réalité des joueurs qui sortent pour aller en sélection nationale. Est-ce qu'on va avoir le groupe, pas tout le groupe? Est-ce qu'il va y avoir une troisième vague? Il n'y en aura pas. Est-ce qu'il va y avoir des éclosions? On sait que Toronto FC a été frappé par une vague. Bref, c'est bien dur de statuer présentement sur quoi va avoir l'air l'issue de cette saison MLS-là. Alors, notre seul point qu'on peut faire, c'est bien sûr de suivre la progression de certains joueurs. Doc Mayou nous dit, entrer en série, la barre est basse si les critères sont les mêmes que la saison passée. Et là-dessus, Doc, je te rejoins à 100%. Je rejoins Doc à 100% parce que, sincèrement, moi, je pense que le CF Montréal est dans la construction et dans la continuité. Wilfred Nancy, de ce qu'il me dégage, de ce qu'il démontre, je pense qu'il va être dans la continuité de ce que Thierry Henry a mis en place. Olivier Renard semble les deux mains bien confortables sur le volant, donc devrait être lui également dans cette continuité-là. Donc, moi, personnellement, je suis tanné qu'on me vende un projet d'un impact ou cette saison-là d'un CF Montréal qui se bat bien, qui travaille fort. Non, je veux qu'on me présente un projet d'un club qui va gagner, qui va aspirer à des sommets. Comprenez-vous? Je suis tanné qu'on me dise à toutes les saisons, puis ça fait 4 ans, on s'est bien battu. L'objectif ne peut pas être juste de te battre. Puis, je comprends que ce monde-là dise, Jeff, un coup que tu es en série, ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Vous avez entièrement raison. Par contre, comme j'ai dit la semaine dernière, demandez à l'Union, demandez à la direction de Portland, demandez à la direction de Seattle, demandez à la direction de l'AFC, est-ce que votre objectif est de faire les séries? Parce qu'un coup en série, tout peut arriver. Je suis pas mal sûr qu'il aspire à davantage que les séries. Donc moi, sincèrement, de me contenter de si peu, c'est pas ma force. C'est pas ma force et je trouve que le CF manque d'ambition à ce niveau-là énormément. Donc moi, ce que je veux, c'est des résultats. Ce que je veux, c'est des croissances personnel de joueur. Et ce soir, je veux qu'on se parle de Zachary Broguillard. Pour revenir aux commentaires qu'on avait tout à l'heure de Vincent qui nous disait « J'aimerais bien voir 2 ou 3 jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour certains. » Vous le savez, de la façon que la MLS, elle est produite, elle est construite, elle grandit. Il y a juste une stratégie qui est valable, c'est celle de scouter, bien développer et vendre pour recommencer le processus. Donc, ce qui doit faire la valeur des clubs, ce qui doit faire l'obsession des clubs, c'est de dénicher des jeunes pépites, de les former et de les vendre sur le marché européen. On a une dans nos rangs, Zachary Broguillard, qu'on parle depuis plusieurs années comme étant celui qui pourrait être le plus gros transfert de l'histoire de la concession. Les données que je vais vous donner dans les prochaines minutes parviennent principalement de Transfer Market. C'est des données donc que j'ai récoltées là, que je veux partager avec vous. Et j'espère, comme je vous dis, vous apprendre quelque chose d'ici la fin du podcast. Zachary Broguillard, si on regarde la progression donc de cette valeur marchande-là, elle est où la valeur de Zachary Broguillard présentement? Elle se situe à 800 000 $ et on peut voir là qu'il y a eu une progression et là, on vient d'atteindre un certain plateau, mais si on regarde depuis son entrée, clairement, Zachary Broguillard est sur une pente ascendante. Donc, il y a une progression dans son cas et ça, c'est vraiment bien. Donc, la valeur actuelle de Zachary Broguillard est, selon Transfer Market, autour de 800 000 $. Mais regardons donc, c'est quoi le classement? Où est-ce qu'il se situe Zachary Broguillard? Et si on veut pouvoir analyser une progression dans son cas, parler éventuellement de rumeurs de transfert, de le voir progresser et de partir à l'étranger, c'est important d'avoir quand même des chiffres et un certain classement. Donc, où est-ce qu'on le place, Zachary Broguillard, à travers le monde? Il est 6970e et là, je parle de la valeur selon le transfert market. Donc, la valeur de transfert de Zachary Broguillard, elle est positionné à travers tout le globe, 6970e. Ça le place 262e en MLS, 7e chez le CF Montréal, 21e à travers le Canada, 514e à travers toute la planète. Donc, mondialement, à titre de défenseur latéral droit, il est 514e. Et il est le 461e de sa cohorte. Donc, si on regarde tous les joueurs mondialement de 1998, Zachary Broguillard se situe donc 461e mondial. Et si on regarde le top 10 des transferts de la CONCACAF, ce qu'on veut, nous, c'est que Zachary Broguillard amène au CF Montréal un transfert historique pour cette formation-là. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est joué dans les autres formations ou, à tout le moins, dans la zone CONCACAF. J'ai le top 10, donc, des plus gros transferts. Alphonso Davies, sans grande surprise, se situe au premier rang avec 10 millions. Mark McKenzie, donc, qui est parti de l'Union à 5,45 millions, ferme le podium. Mac Miazga, parti donc du New York Red Bull en 2015-2016, ça fait quand même déjà plusieurs années, en direction de Chelsea pour 4,6 millions. Gonzalez en 2014-2015 quittait le Crew de Columbus pour Palermo à la hauteur de 3,8 millions d'euros. Team Reams quittait 2011-2012, on est loin là. New York Red Bull pour Bolton en première ligue à la hauteur de 3 millions. Puis là, je vous ai descendu le top 10 comme ça, mais je vais pas tout vous les énumérer. Mais ça joue à peu près dans ces eaux-là. Et si on veut regarder, donc, le top 10, là, ça joue entre 10 millions Alphonso Davies, qui est vraiment une coche devant tout le monde. Mais normalement, pour un défenseur, ça va jouer entre 2 et 5 millions pour être donc inclus à l'intérieur du top 10. Zachary Broguillard est présentement à 800 000. Donc, est-ce que c'est possible de croire qu'il pourrait arriver là? Je pense que oui. Je pense que c'est possible. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est le top 10 de tous les défenseurs au sein de la CONCACAF. Si on prend la position de Zachary Broguillard proprement dite, donc là, on se dirige dans les latérales droits. Ça fait beaucoup d'informations, mais encore une fois, je suis à l'intérieur de la zone CONCACAF. Donc, on voit 25 millions pour Sergio Dest qui est au Barça, qui vient donc quand même de la zone CONCACAF, 25 millions d'euros. Brian Reynolds à 6 millions. Edlin arrière-droit, 5 millions. Michael Murillo arrière-droit, 4 millions. Bref, c'est le top 10 de la valeur présentement des arrières droits qui proviennent de la zone CONCACAF. Richie Laria, quand même 26 ans par contre, est en 9e place avec le TFC pour 2,5 millions. Ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée donc de la valeur que peuvent avoir les défenseurs et principalement les latérales droits. Je pense que ça peut être relativement intéressant. Il est où, lui, Zachary Broguillard, dans cette liste-là présentement? Donc, je vous le démontre, Zachary Broguillard est au 45e rang, donc des latérales droits, âgé de 22 ans, lui qui vaut 800 000. Donc, et dans ex aequo avec Carlin Arcus à 800 000, mais on voit là qu'il peut ressembler à Brooks Lennon. d'Atlanta United. 23 ans, on est à peu près dans les mêmes eaux, à 850 000. Donc, c'est à peu près, il se situe à la bonne place. On parle de, est-ce qu'on va être capable de faire progresser le jeune? Est-ce qu'on va être capable de faire progresser le joueur et d'aller le pousser à l'étranger? Parce que c'est ce qu'on veut faire avec Zachary Bourguillard. On veut être capable de le voir grandir cette saison et éventuellement, donc, quitter le CF Montréal avec une bonne compensation. On espère aller chercher la plus haute compensation jamais touchée chez le CF Montréal. Alors, faut se donner des objectifs. Faut se donner des objectifs de développement. Et où est-ce qu'il se situe en tant que latéral droit de 23 ans, Zachary Bourguillard? Doc nous dit qu'Isa n'a pas plus de valeur que Zachary Bourguillard. Qu'Isa ne vient pas, puis je vais te dire ça exactement, Doc. Mais Kiza ne vient pas de la zone CONCACAF. Donc, c'est important de comprendre que les stats que je vous donne là présentement, c'est des joueurs qui proviennent de la zone CONCACAF. Mais Mustapha Kiza, présentement, a une valeur marchande de 250 000 euros. Donc, est loin derrière quand même Zachary Bourguillard au moment où on se parle. C'est toujours des informations qui sont prises via le transfer market. Donc, Kiza n'a pas plus de valeur, non, présentement, que Zachary Bourguillard. Faudra voir l'étendue de sa saison. Faudra voir exactement comment il va pouvoir se développer cette saison et comment il va grandir au sein de la MLS et de l'Impact. Il y en a plein qui sont venus qui se sont développés rapidement et qui ont connu donc quand même un up de valeur. Faut dire que Zachary Bourguillard a un an d'avantage, si on peut le dire comme ça, sur Mustapha Kiza, donc âgé de 22 pour Bourguillard et 21 ans pour Mustapha Kiza, mais Mustapha Kiza, c'est sûr qu'il est en progression également. Par contre, fait tout juste son entrée sur le marché du transfert market. Donc, ça fait pas longtemps qu'il est là. Je pense qu'il a pas fini de prendre la valeur. Il a pas fini de nous impressionner. Et ça va être intéressant de le suivre au cours des prochaines saisons, voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Mais si on regarde Zachary Bourguillard dans son ensemble, il est où en tant que latéral droit U23? Si on le prend pour ce qu'il est présentement, Zachary Bourguillard est quand même un latéral droit U23. Donc, on va se diriger sur les statistiques. Si je regarde toujours en provenance de la zone CONCACAF, c'est important parce que je ne l'ai pas mis à travers le monde. Je pense que le soccer se développe vraiment différemment ailleurs qu'ici. Donc, on a un marché qui est propre à nous dans la CONCACAF et je pense que c'est important de les comparer à ce qu'ils sont. Il est cinquième présentement. Donc, il est dans le top 5 des arrières droits de U23 au Canada présentement. Reggie Cannon, Alistair Johnston, Vladimir Lorona, Luis Hernandez et Zachary Bourguillard, donc qui ferme cette marche donc dans ce top 5. Johnston qu'on voit évoluer en MLS avec Nashville qui occupe la deuxième place. Donc, ça sera... Des fois, il y a des matchs comme ça, moins intensifs, des matchs moins intéressants, où ce qu'on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on peut checker dans le game? Un petit Nashville, des fois, ça peut être drabe. Parfois, ça peut être bon. On a connu une belle saison Nashville la saison dernière, mais tu sais, ça va être intéressant de surveiller justement les temps de jeu et l'évolution de certains joueurs au cours de cette saison-là pour pouvoir vraiment les comparer et dire... Où est-ce qu'il se situe, Zachary Broguillard? Dans quelle fourchette exactement il se situe? Puis ça va être intéressant donc de pouvoir le comparer et de voir s'il a, au cours de cette saison-ci, s'il a cette progression-là qui est importante pour lui et pour, bien sûr, éventuellement, sa carrière, s'il veut espérer prendre de l'ascension sur le marché international. Zachary Broguillard a également la nationalité française, un avantage important pour se tailler une place en Europe. Principalement, je te dirais, Doc, dans la situation actuelle de pandémie où tout devient difficile, d'avoir un joueur, d'avoir un permis de travail, de pouvoir le transférer, d'avoir les contacts, d'avoir toutes les informations, c'est sûr qu'un avantage clair à un joueur comme Zachary Broguillard d'avoir en sa possession cette double nationalité-là, c'est sûr que, comme je pourrais dire, à talent égal, selon moi, il peut en tirer avantage. Par contre, je suis pas certain que... On va considérer Zachary Broguillard dans une situation où on a un joueur qui est meilleur, qui est mieux classé, qui ressort plus du lot finalement que Zachary Broguillard. Donc, ça va être important de lui donner les ressources, de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer. Alors, j'en reviens au commentaire de départ de Vincent. J'aimerais bien voir deux, trois jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour certains. Zachary Broguillard va faire partie de l'élite, je pense, de cette formation-là, va faire partie des joueurs bien établis et je pense qu'on a commencé à le mousser pas mal au sein de, pas au sein, mais aux côtés de Samuel Piette dans plusieurs publicités. Donc, on le voit prendre la place, tout comme on voit Zoran Bassang tranquillement, pas vite, prendre énormément de place. Donc, on est en train de peaufiner le visage de cette formation-là. Mais si on veut développer Zachary Broguillard, pour moi, il faut l'encadrer, il faut lui donner du soutien. Si Olivier Renard a fait des ajouts considérables dans l'entre-saison, une lacune qui demeure à mes yeux présentement est cette doublure-là sur Zachary Broguillard. On ne peut pas lui demander de jouer tous les matchs. On ne peut pas lui demander de jouer 90 minutes par match. Et on ne peut pas non plus scraper le plan de match pour reposer Zachary Broguillard. Donc, il faut une profondeur sur la position de latéral droit. On en a qui peuvent dépanner, qui peuvent le faire. Mais c'est pas des positions naturelles, on va l'appeler comme ça. Et c'est pas des joueurs qui, normalement, évoluent à cette position-là. Donc, ça va être important, je pense, pour Olivier Renard. S'il avait des ajouts à faire, on sait qu'il reste de la place, hein, parce qu'on a sauvé, puis on dira ce qu'on veut, là, mais on va avoir un DP cette année avec... le CF Montréal en Victor Wanyama. On a fait de la place monétairement avec le départ de Thierry Henry. Je pense qu'on a sauvé de l'argent, pas sur la masse, mais financièrement, on va avoir sauvé de l'argent. On va avoir sauvé de l'argent sur le contrat de Maxi Urruti, sur le départ de Taider, sur le départ de Boyan, sur le départ quand même relativement récent de Piatti. Bref, je pense qu'il y a de l'argent disponible. Ça va être important d'investir sur une doublure de qualité pour Zachary Broguillard. Si on veut lui donner les armes, si on veut lui donner les outils de s'élever d'un cran et de profiter éventuellement de cette fenêtre de transfert-là qui pourrait être avantageuse énormément pour le CF Montréal, de mettre la main sur un certain montant d'argent pour réinvestir dans le processus donc et continuer cette roue qui fera progresser donc cette formation-là. Alors, c'est important de le faire et mes attentes pour moi, je rejoins encore une fois, puis je sais que j'ai l'air de radoter, mais je rejoins encore une fois le commentaire de Vincent. J'aimerais bien voir deux ou trois jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour certains joueurs. Donc, c'est important de bien développer cette formation-là. Rappelons-nous que le CF Montréal sera la formation la plus jeune du circuit Garber pour la saison 2021, du moins pour le moment, à moins qu'il y aurait des ajouts de dernière minute qui feraient remonter énormément cette moyenne d'âge-là. Mais au moment où on se parle, le CF Montréal possède la plus jeune formation du circuit de la MLS. C'est un projet qui peut être enlevant, c'est un projet qui peut être intéressant, mais clairement, on est dans la construction. Donc, il faut arrimer tout ça et encadrer ces jeunes-là avec un petit peu d'expérience. Je pense que Laurent Simon, à ce niveau-là, est une belle acquisition et qu'il pourra amener énormément à un Zachary Beauguillard dans son développement et son encadrement. On sait que Thierry Henry a tenté de peaufiner des choses la saison dernière avec Zachary Beauguillard. Par certains moments, on a senti de la frustration. On a senti que ça allait pas à son goût. On va voir si la situation va être différente et si elle va se replacer avec Nancy aux commandes de cette formation-là. Mais je pense sincèrement que l'un des prochains transferts du CF de Montréal sera un joueur comme Zachary Beauguillard qui peut aspirer à de grandes choses. Je vous le rappelle, Zachary Beauguillard est cinquième présentement à la hauteur de sa valeur. Il est cinquième au Canada parmi les U23. Donc, je pense que sincèrement, au sein de la CONCACAF, je pense que sincèrement, il y a un potentiel incroyable à explorer au niveau de Zachary Beauguillard. Maintenant, il faut avoir le pouvoir de nos ambitions. Donc, il faut investir, il faut encadrer Beauguillard pour être sûr que son développement se fasse de la bonne façon. Là-dessus, ça met un terme déjà à ce podcast-là. J'espère que vous avez appris quelques données. J'espère que vous allez retenir quelques informations, mais je pense que on va triper cette année, cette saison qui s'amorce bientôt avec le CF Montréal. Et on va essayer de vous faire donc des profils de joueurs comme ça, qu'on va entrer un petit peu plus en détail pour aller peaufiner et voir c'est quoi les avenues pour le futur et les transferts possibles de ces joueurs-là. Donc, je pense qu'on a fait une belle rétrospective de ce que pourrait avoir l'air la saison pour Zachary Beauguillard. Donc, on le sait, on le rappelle, Zachary Beauguillard est le cinquième en termes de valeur au sein des U23 de la CONCACAF. Il vaut présentement 800 000, un sommet depuis le début de sa carrière. Je pense qu'il n'a pas fini de progresser, mais pour atteindre donc les top 10, comme un Alphonso Davies qui s'est transféré pour 10 millions, je pense qu'il a encore beaucoup à faire. Il doit progresser énormément et je pense que la fenêtre, sincèrement, si elle n'est pas prise cette année, s'il n'y a pas d'explosion dans le cas de Zachary Beauguillard, cette fenêtre-là, elle va se refermer tranquillement, pas vite. Donc, il faudra vraiment que cette année, ce soit une saison d'aboutissement pour Zachary Beauguillard, qui doit donc confirmer finalement cette saison qu'il a tous les atouts nécessaires à exploser et connaître son plein potentiel. On se retrouve donc plus tard cette semaine pour un autre podcast bleu, blanc, noir. Mercredi, c'est sûr, Arius sera avec moi. On va se parler de futsal cette semaine. Je pense que ça va faire différent et ça va faire intéressant. Dimanche prochain, troisième épisode de la MLS Franco. On regarde ensemble qui est le plus grand joueur qui a passé parmi le circuit de la MLS depuis sa mise sur pied. Il y a plusieurs noms qui sont revenus dans les réseaux sociaux. On a entendu parler de Beckham, on a entendu parler de Thierry Henry, de Didier Drogba, de Kaka. On a entendu parler également de Bradley. On a entendu parler de Rooney. Bref, Zlatan, qu'on peut pas nier non plus, qui a été le plus grand joueur? C'est de ça qu'on va se discuter dans le prochain MLS Franco avec Richard et Arius. Merci d'avoir été là. Si c'est pas fait, vous voyez circuler en bas. Je vous invite à devenir membre de notre podcast au www.bbnmedia.com. À la fin du mois de mars, il n'y a plus aucun contenu qui sera accessible. Donc, comme là, ouvert au public, ce sera que pour nos membres. On essaie donc d'aligner le produit pour être sûr qu'on soit fin prêt. On sait que Periscope disparaît à la fin du mois de mars. Donc, on va être prêt. Notre plateforme va être prête. On va diffuser à 100% via bbnmedia.com. Alors, on va tranquillement, pas vite, vous donner l'habitude et vous donner rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard cette semaine pour une autre édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir.